Il a participé en tant que cycliste professionnel à 18 Paris-Nice, 18 Paris-Roubaix, 14 Tours de France, soit 56 000 kilomètres, dont un Tour de France au retentissement considérable, c'est celui de 1964, mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec lui. Sa grande histoire d'amour, c'est le Tour de France cycliste, 7 victoires d'étape, 3 places de deuxième, 5 places de troisième et 2 abandons pour chute. Il a affronté les plus grands cyclistes, Louison Bobet, Van Looy, Anquetil, Merckx, Hinault et De Gaulle. Charles De Gaulle avait déclaré qu'il avait un nom de Premier ministre. Mais de qui peut-il bien s'agir? Oh, vous l'avez peut-être déjà deviné. Et si je vous dis que dans le monde du cyclisme, on l'a surnommé la pouliche, Poupou, c'est Raymond Poulidor. Bonsoir Raymond Poulidor.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de Radion.
Merci à vous de vous intéresser à ma personne.
Mais vous n'êtes pas n'importe qui, Raymond Poulidor. Alors je rappelle, vous êtes né dans la Creuse le 15 avril 1936. Vos parents étaient métayers, c'est Maria et Martial. Vous êtes le 5e enfant d'une grande famille. Et finalement, chez les Poulidor, vous le dites, vous avez vécu plutôt modestement, mais heureux.
Heureux, très heureux, nous n'avons manqué de rien. Bon, on n'avait pas d'argent de poche, mais l'argent c'est quoi? Bon, ça sert bien sûr à faire les commissions, mais dès l'instant où on n'a pas besoin de produits nécessiteux, nous habitions la ferme, nous mangeions de la viande tous les jours. La maman Poulidor, lorsque les marchands ambulants, les épiciers qui passaient à la campagne, elle faisait un trust. Elle vendait des œufs, elle vendait des lapins, elle vendait des poules. Et en contrepartie, on lui donnait du café, du poisson et autres. Bon. En somme, nous étions heureux. Vous avez rappelé, là vous avez cité beaucoup de... le 18. Ça a été mon numéro fétiche, le 18. Vous avez dit 18 Paris-Nice, 18 Paris-Roubaix. Et j'ai fait 18 ans de... J'étais 18 ans professionnel et j'ai fait 18 championnats du monde. J'ai été sélectionné pendant 18 reprises pour défendre la France au championnat du monde. Alors ce 18, pour moi, il reste...
C'est un chiffre magique.
C'est un chiffre fétiche.
Alors vous écrivez, c'est dans Poulidor Intime, « Chez nous l'argent est rare mais l'on est heureux, le soir on se réunit autour de la cheminée, le cantou ». Mon père tresse l'osier et l'on raconte en patois des histoires de farfadet, de loup-garou ou de dalu, cet animal mystérieux qui vit au bord du lac des grenouilles, de l'étang des grenouilles, pardon.
Mais j'ai rien à ajouter, vous savez tout. Vous savez
alors,
tout.
Ce qui est formidable, c'est que quelque part, ce petit garçon Raymond, qui est amené à devenir une célébrité, quelqu'un un jour avait dit à votre maman, un jour quelqu'un fera parler de lui dans votre famille. C'était donc vous ?
C'était moi et c'est mon grand regret. C'est mon grand regret puisque lorsque j'ai fait mon premier Tour de France, j'ai eu la visite de cette personne qui est venue me voir au départ d'une étape du Tour de France. Mais j'avais tellement de monde autour de moi que j'ai pratiquement ignoré cette personne. C'est mon plus grand regret de ma vie. J'ai cherché à joindre cette personne, soit par la télévision, soit par la radio, comme vous le décrivez aujourd'hui. Mais je pense que cette personne doit être décédée, puisque moi, à ce moment-là, j'avais 8-9 ans. Rien ne prédisposait dans la famille à qu'un jour, je sois célèbre. Et lorsqu'il a déclaré à mes parents, « Je vois dans votre famille quelqu'un qui fera parler, qui sera célèbre un jour. » Là, vous parlez, tout le monde... à rigoler, pas à faire rigoler. Et personne n'a pris cela au sérieux et le jour était venu. Et ça, c'est mon grand regret de ne pas avoir prêté attention à cette personne parce que cette popularité qui me poursuivait et tout, c'était impossible de me concentrer et tout et impossible de prêter attention à cette personne. Et après, lorsque j'y ai pensé, j'ai dit, mais je suis vraiment ridicule de ne pas avoir prêté attention à cette personne et de dire venez, on va discuter dans un petit coin. mais c'était pas possible.
De toute façon, impossible de revenir en arrière
non,
maintenant.
Non, c'est impossible.
Alors, Raymond Poulidor, vous avez fait une bonne scolarité, vous avez décroché le certificat d'études, vous aviez eu même 86 points sur 100 et vous étiez deuxième du canton, s'il vous plaît.
Déjà. Et certainement, je vois que vous êtes très bien informé.
Ah ben, je vous ai bien lu, Raymond Poulidor.
Vous savez que le lendemain de mon certificat d'études, je me suis représenté à l'école communale.
Et pourquoi donc ?
Et j'ai pleuré. Parce que je voulais continuer mes études. Et l'instituteur m'a dit, désolé, vous ne pouvez pas poursuivre vos études ou alors il faut payer.
C'était un problème, manque d'argent de la part des parents. Quoi.
C'était un problème d'argent. Mes parents ne pouvaient pas payer mes études et j'ai pleuré. Je crois que je suis peut-être un des seuls qui voulait continuer ses études et avoir pleuré pour quitter l'école. Bon, j'ai réussi... ma reconversion, entre parenthèses.
Alors, justement, parlons de l'instituteur. Vous en parlez souvent de M. Vialville. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'estime et de considération.
Énormément d'estime. Vous savez, en ce moment-là, bon, je ne veux pas dire de mon temps, c'était ici, il y avait la discipline et tout. On avait énormément de respect pour son instituteur. Énormément. Et l'instituteur vous faisait déjà une certaine morale. Il vous apprenait le civisme et autres. C'était quelque chose de primordial. Et moi, comme je me défendais bien en sport, à l'école, il nous faisait travailler. Des fois, il avait un petit jardin, il y avait des mauvaises herbes. Les meilleurs élèves de la classe, il les réunissait. Et puis, on allait faire un tour au jardin. Et on faisait ce qu'on appelait du sarclage. Je ne sais pas si c'est français ou autre.
Si. On sarclait
les légumes et tout. Et puis après, on avait construit un sautoir pour faire du sport.
Du saut en longueur
un saut en hauteur.
D'accord.
Saut en hauteur. On faisait également du saut en longueur et tout, avec de la sciure et tout. Et comme j'étais doué pour le sport, à chaque fois, il y avait une récompense. Il était abonné à Miroir Sprint de l'époque. Et le premier, le plus brillant de ses élèves, avait droit à la collection de la semaine du Miroir des Sports, qui était en trois couleurs. Il y avait le bleu, le bistre et le marron. Voilà.
Et alors, il y a un autre sportif que vous adulez dans votre jeunesse, c'est le boxeur Marcel Cerdan.
Marcel Cerdan. J'avais énormément d'admiration pour Marcel Cerdan, à tel point qu'avec mes frères, nous avions pendu un sac de sable dans la grange. Et nous allions boxer ce sac de sable. Vous savez, c'est dur à main nue. Des fois, on avait les mains qui étaient blessées et tout. Alors, on se mettait des chiffons autour des mains et on boxait dans ce sac de sable. Et je me souviens lorsque Marcel Cerdan, son avion s'est écrasé aux Açores en 1949. Avec le papa, nous avons pleuré pendant 8 jours.
Et l'hymne à l'amour de Piaf aussi, une chanson à laquelle vous êtes très attaché.
Bien sûr, elle a fait cette chanson à la suite du décès de Marcel Cerdan, puisqu'elle se sentait un peu responsable de sa mort, puisque Marcel Cerdan avait envisagé de faire la revanche avec Jacques Ilamota, de prendre le bateau. La traversée durait 15 jours et il s'entraînait sur le bateau. Et Edith Piaf lui a téléphoné, lui a dit « Marcel, tu me manques, je t'ai réservé un billet d'avion ». Tu me rejoins tout de suite à New York. Ça a été le drame. Voilà.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, ne m'importe. Mon amour, puisque tu m'aimes. je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
On va reprendre quelques grandes dates, grandes étapes de votre carrière. Le 2 août 56, c'est le bol d'or des Monédières qui est organisé par Jean Ségurel, l'accordéoniste. Et alors là, à ce moment-là, il y a Louison Bobet qui participe à cette course. Vous avez 20 ans à l'époque. Et Bobet, vous faites de l'ombre à Bobet puisqu'il dit mais qui est ce coureur plus applaudi que moi et que tout le monde appelle la pouliche?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, Louison Bobet, c'était le pouli d'or de l'époque. Une popularité énorme. D'ailleurs, on lui doit un grand coup de chapeau. Il a énormément servi le cyclisme. Déjà par sa tenue vestimentaire, il se présentait toujours impeccable. Soquette blanche, tout, maillot impeccable et tout. Puis Bobet savait très bien s'exprimer. Contrairement à certains, il avait fait certaines études un peu plus poussées que d'autres, puisqu'en ce moment-là, la grande majorité des coureurs cyclistes étaient de la campagne. Des gens qui appartenaient à un milieu assez, je dirais pas pauvre, mais pas aisé du tout.
Modeste.
Modeste, voilà. Et Bobet a énormément servi le cyclisme. Et ce jour-là, j'avais même battu Bobet. Et j'avais tenu tête à tous les professionnels. Et je le dis toujours, en 56, j'étais aussi fort pratiquement qu'en 60 ou 61. À 20 ans, j'aurais pu faire un très bon Tour de France. Mais malheureusement, il y a eu la guerre d'Algérie, de service militaire. Puisque j'ai fait 30 mois de service militaire, sans vélo.
Dans le régiment du train?
Dans le régiment du train.
Alors, vous avez été coiffeur?
J'ai été coiffeur en début, oui. Et puis après, j'ai été détaché à la Légion comme chauffeur.
13 mois en Algérie?
13 mois en Algérie et j'ai fait 29 mois et demi de service militaire.
Alors, le service militaire se termine en décembre 58. Et alors là, en 1960...
Un 18.
En 1958.
Oui, mais un 18 décembre.
Un 18 décembre, le fameux chiffre 18. D'accord, vous faites bien de le mentionner. Alors, 1960, c'est le début de contrat avec la firme Mercier. Et là, vous passez professionnel. Alors, c'est l'année du premier Paris-Nice, l'année du premier Paris-Roubaix. Et puis, il y a quelqu'un qui devient votre directeur sportif. Alors, là encore, un homme pour lequel vous avez beaucoup d'estime, c'est Antonin Magne, lui aussi qui vient d'un milieu paysan et qui est le directeur sportif.
C'est-à-dire Antonin Magne, qui avait énormément d'admiration pour moi, il avait pratiquement eu la même vie que moi. Il appartenait au même milieu que moi et il m'a pratiquement considéré comme son fils. Et lorsque j'ai signé mon contrat chez Antonin Magne, je me souviens, avenue de la Grande Armée, un homme impressionnant, assis dans un fauteuil, la cravate, la chemise blanche, les grands cils, il impressionnait.
Et il ne tutoyait pas, hein?
Ah, il ne tutoyait pas. Alors, nous avons eu la conversation et la signature a été très très longue, puisque Antonin Magne défendait les intérêts de l'équipe Mercier. D'ailleurs, j'ai fait 18 ans de fidélité à Mercier dans la même maison. Et lorsque nous avons signé ce contrat, nous sommes heurtés sur le chiffre. Lui me proposait 25 000 francs de l'époque et moi je voulais 30 000 francs. Alors Antonin Magne, évidemment, la discussion s'est prolongée. Il dit, c'est impossible que je vous donne 30 000 francs. C'est le prix que je donne à des coureurs comme Casala, Priva, qui ont déjà gagné énormément de grandes courses. Si je vous donne autant qu'eux, c'est pas possible. Alors nous sommes tombés d'accord pour 25 000 francs. Mais moi, je lui ai fait comprendre, Antonin Magne, que lorsque je faisais les courses régionales, des fois, je gagnais les 30 000 francs faciles dans la journée, en prime et en course. Alors j'ai dit, si je réussis pas, qu'est-ce que je vais devenir? Puisqu'en ce moment-là, vous aviez plus le droit de redescendre indépendant, de courir dans les équipes, dans les petites courses. C'était un problème. Bon, la réussite s'est faite tout de suite. Après, mon salaire, évidemment, a suivi la courbe.
Alors, en 1961, donc, c'est le Paris-Nice, la victoire à votre premier Milan San Remo. Mais en 61, pas de Tour de France pour Polydor.
Pas de Tour de France en 61, puisque Antonin Magne savait que le premier Tour de France en 1962 allait se faire par équipe de marque. C'est peut-être un de mes grands regrets. D'ailleurs, j'en avais discuté avec Anquetil et avec beaucoup d'autres personnes, puisqu'en 61, Marcel Bidon m'avait sélectionné en équipe de France, aux côtés de Jacques Anquetil, pour disputer le Tour de France. Et Antonin Magne est intervenu. Il a dit, il n'est pas question que vous fassiez le Tour de France au service de Jacques Anquetil. Lorsque vous ferez le Tour de France, vous rentrerez par la grande porte en tant que leader. Voilà. Mais il avait des échos comme quoi le Tour de France allait se disputer en 1962 en équipe de marque. Et la grande catastrophe, quelques jours avant le départ du Tour, lors d'une sortie d'entraînement, je me casse le petit doigt.
Il y a toujours eu de la déveine et de la malchance bien dans sûr. La carrière sportive de bien Raymond Poulidor.
Et bien sûr, c'est ce qui a fait ma popularité. J'étais le Français moyen qui arrivait quelque chose au moment que j'allais conclure, que j'allais gagner, top. Une petite. Et là, ça a été la catastrophe. Lorsque je me suis présenté au départ à Nancy, qu'Antonin Magne m'a eu une immense plâtre qui me retenait tout le bras gauche, il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est la catastrophe. C'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir prendre le départ de ce Tour de France. Alors on a essayé de me faire un plâtre un peu plus léger, mais qui m'en serrait tout le bras gauche. Et je me souviens, la première étape, c'est l'année où Van Looy nous amenait au pied de la montagne à 45 à l'heure tous les jours. Et le premier jour, j'ai perdu 9 minutes, car je ne pouvais pas tenir le guidon au contrôle de ravitaillement. Van Looy a attaqué, puis bon, 9 minutes, je ne vous dis pas le soir, la soupe à la grimace et le moral dans les chaussettes. Puis j'ai réussi à gagner une étape de montagne et à faire troisième du Tour de France. Et je crois que cette popularité est partie de là.
Alors, il y a eu aussi la popularité. C'est un terme qui est créé par Émile Besson, je crois, du journal L'Humanité.
Émile Besson.
C'est en 62, ben ça fait 50 ans maintenant, et un demi-siècle, Raymond Poulidor. Et en 63, il vous arrive quelque chose qui vous meurtrit, parce que vous allez être, à l'arrivée au Parc des Princes, vous allez être hué par la foule. Et ça vous a fait mal au cœur.
Ah oui.
Alors pourquoi vous a-t-on hué?
Ben, j'avais fait un très mauvais Tour de France. J'avais fait des débuts tellement brillants en 62, pas de problème, Poulidor en 63 est le favori du Tour de France. C'était au temps du règne de Jacques Anquetil. Et j'ai fait une énorme erreur. Je crois que mon directeur sportif aurait dû m'arrêter lors de la grande étape du Grand Saint-Bernard et tout. J'ai attaqué trop loin de l'arrivée, le vent de face et tout. Et mes adversaires m'ont laissé mourir à l'avant. Et lors de l'attaque de la Forclaz, j'ai loupé ma musette de ravitaillement. Et Antonin Magne, qui était énorme, scrupuleux, qui respectait les règlements, n'a pas voulu me passer la musette en dehors du contrôle de ravitaillement. Car c'était une amende en francs C'était pas une amende en temps, en francs seulement, mais lui, c'était le règlement. Et j'ai eu une petite défaillance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fringale. Voilà. Et j'ai perdu ce jour-là 9 ou 10 minutes. Et à l'arrivée, évidemment, j'ai fait 7 ou 8e du tour, une de mes plus mauvaises places, et le public m'a sifflé.
Mais c'est un peu facile de siffler un sportif.
Oui, mais c'était des sifflets de déception. Oui. C'était pas des sifflets que on peut entendre au cours d'une carrière d'un sportif. C'était des sifflets de déception. Ils étaient déçus.
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur, est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, j'y réponds, carrefour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour, et qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à ces bicyclettes. Bon, là, je peux pas rien dire. Hein. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
La carrière du cycliste Raymond Poulidor, ce soir sur votre radio locale à bord de l'émission littéraire Wagon Livre. Alors revenons, si vous le voulez bien, à l'année 1963 avec notre champion, l'éternel second, Raymond Poulidor.
Génie Antonin, vous m'engagez au Grand Prix des Nations. Alors je ne vous dis pas, il a levé les bras au ciel, puisque le Grand Prix des Nations, c'est une épreuve contre la montre individuelle. 100 kilomètres, toute la vallée de Chevreuil. C'est énorme. C'était une des plus belles courses et tout. Et j'étais quelconque contre la montre. J'étais pas bon. Alors, sur mon insistance, il m'a engagé au Grand Prix des Nations. Je me suis entraîné comme un forcené. Et j'ai dominé ce Grand Prix des Nations. D'ailleurs, le vainqueur de l'année précédente, je crois qu'il était à 4 minutes. Sur les 100 kilomètres, je l'avais mis 4 minutes. Le troisième à 5 minutes, ainsi de suite. À l'arrivée, Antonin Magne a ouvert les grands yeux, puisque c'était un homme assez sensible, mais des félicitations, il n'aimait pas trop féliciter. Il m'a regardé, il a levé ses grands sourcils. Vous alors,
Alors, il faut absolument que nous parlions du Tour de France 1964. J'allais dire, là, c'est le choc, c'est le duel très attendu entre le Normand et l'homme de la Creuse. Le Normand, c'est Jacques Anquetil, qui est votre ennemi juré à l'époque, mais qui deviendrait un grand ami. Et Poulidor, le Creusois.
Ah, ce tour de France 64, je crois que si on commence à l'évoquer, il y en a pour deux heures.
Oui,
alors. Il y en a pour deux heures. Oui. C'est énorme ce Tour de France, ce que j'ai eu, ce qui s'est passé. Malchance et tout. Premier temps, Antonin Mann, il m'avait dit, vous allez reconnaître le Puy-de-Dôme. Vous savez, en ce moment-là, notre gagne-pain, c'était les critériums. 3-4 jours avant le départ du Tour, on faisait encore des critériums sur piste. Puisque ce qu'on gagnait en deux heures, c'était notre mensualité pratiquement. On avait des petits salaires. Et 2-3 jours avant le Tour, je faisais des critériums. Et je n'ai pas reconnu le Puy-de-Dôme. Et j'avais menti à Antonin Mann, je lui avais dit, j'ai reconnu le Puy-de-Dôme, où normalement c'était la plaque tournante peut-être de ce Tour de France. Mais quand on parlait sur ce Tour de France 64, que Anquetil m'avait bluffé là, le Puy-de-Dôme, c'est pas du tout. C'est pas du tout vrai, il m'a pas du tout bluffé. Moi j'avais l'intention de gagner l'étape du Puy-de-Dôme. Et je me suis battu toute la journée, j'ai contrôlé la course. Et lorsque Bamontès et Jiménez ont attaqué, j'ai pas pu les suivre. Si Anquetil a coincé dans le Puy-de-Dôme, c'est qu'il était plus fatigué que moi. Mais moi, j'étais pas plus brillant que lui. Il ne m'a ni bluffé. Et c'était pas là que j'ai perdu le Puy-de-Dôme. Si je vous raconte tous les péripéties de ce Tour de France, c'est énorme. Premier jour, arrivé à Lisieux, je perds 40 secondes. Alors que je termine à 2,50 m d'Anquetil. Il y a une chute qui se produit à 1,1 km de l'arrivée. Je dis bien 1,1 km. Puisque le dernier kilomètre était neutralisé. Il y a une chute qui se produit, moi je ne peux pas passer, je suis bloqué, je ne suis pas tombé, mais bloqué au milieu du peloton, arrêté. Et Anquetil, qui avait l'habitude de courir souvent en queue de peloton, est passé sur le trottoir et tout, je l'ai vu passer, et je termine à 2,50 m de lui. Mais en ce moment-là, les temps étaient pris sur la ligne d'arrivée, le premier coureur, et lorsqu'il n'y avait pas de cassure, tout le monde était classé dans le même temps. C'est-à-dire Anquetil n'était pas dans la cassure. Moi, j'étais à 1,50 m d'Anquetil, mais il y avait une cassure. Alors, comme le peloton était étendu sur 500 mètres et tout, arrivé en côte, j'ai été classé à 45 secondes d'Anquetil. Premier jour. Il y a eu l'étape de Monaco où je me suis trompé d'un tour. Il y avait une minute de bonification. J'ai sprinté un tour avant, mais ça, c'est une faute personnelle, un tour avant l'arrivée. Et Anquetil a pris une minute de bonification. Mais pour moi, où j'ai perdu le Tour de France, je le répète tous les jours, même je l'ai écrit partout, c'est l'étape Perrera de Bayonne contre la Montre, 70 km contre la Montre. À 25-30 km de l'arrivée, j'étais pratiquement... J'avais fait le meilleur temps qu'Anquetil. Et j'ai victime d'une crevaison. J'appelle la voiture, Antonin Magne dans la précipitation, grand coup de frein, mon mécanicien dans le fossé qui se foule une cheville. C'est moi qui ai été obligé d'aller chercher mon vélo dans le fossé. J'ai perdu peut-être 45 secondes. Et Anquetil me bat de quelques secondes avec les bonifications et autres. Et le gâteau de l'affaire, c'est l'Envalira. Départ d'Andorre. Normalement, Anquetil était hors course et tout. Et en haut d'Envalira, les Espagnols ont attaqué au départ. Et Anquetil était à 6-7 minutes en haut de l'Envalira. Et ce jour-là, il y avait un voyant qui avait annoncé l'abandon et éventuellement la mort d'Anquetil. Alors Anquetil, c'était un homme de défi. Lorsqu'il a sauvé, c'est le brouillard. Le brouillard et l'équipe Pelfort, l'équipe de Georges Rossard qui était leader. Alors Anquetil, qui était un homme de défi, il était à l'agonie. Il a eu des aides dans la montée, enfin bref. Et dans la descente, on ne voyait pas à 2 mètres. Tous les journalistes sont restés avec lui. Il a dit, mais le voyant a raison, il prend des risques énormes. Et il est descendu le col de l'Envalira, les 20 km, avec les phares des voitures. Et il nous a repris 5-6 minutes, il a rejoint toute l'équipe Pelfort, et qui ont roulé derrière moi. Et à l'arrivée, à 25 km d'arrivée, victime d'un bris de dérailleur et tout, j'ai perdu 3 minutes. Vous vous rendez compte ? 3 minutes. Le lendemain, j'ai gagné l'étape, j'ai refait un peu, mais j'ai perdu, voilà.
Alors, en 67, là encore, coup de malchance sur le Tour de France. Vous perdez au classement général en raison d'une chute dans les Vosges. En 68, alors là, on se dit, ça y est, c'est la bonne année.
68. Oui, mais 67, je veux rétablir la vérité.
Ah, rétablissez, oui, alors.
Je veux rétablir la vérité. Cette année-là, Pinchon était intouchable. On était à l'équipe de France. Pinchon avait fait un truc fabuleux en Belgique, à jambes. Il avait pris 7 minutes. Il était leader de l'équipe. 67, je ne sais pas si j'aurais gagné le tour.
68.
Non, mais je parle de 68.
D'accord, mais en 68.
Ah, en 68, c'est là.
Ah, là, vous avez raté le coche, là.
Là, j'ai plus que raté le coche, puisque c'est Janssen qui gagne. Et Janssen, je lui avais pris 3-4 minutes dans les Pyrénées. Normalement, j'étais en train de gagner le Tour de France. Oui, 68, normalement, c'est le tour que j'aurais dû gagner sans cet accident bête. Mais finalement, il faut relativiser, puisque j'ai dit... On m'a dit, ah, quelle malchance. J'ai dit non, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, une victoire dans le Tour, c'est merveilleux. Mais la vie l'est encore plus, puisque j'aurais pu très bien y laisser la vie ce jour-là. Je m'en sors bien. Au point de vue moral, ça a été très difficile pendant presque un an, puisque j'avais deux fractures de l'os frontal, fracture du nez, des plaies partout, dans les deux bras, les genoux et autres. Bon, après j'ai été rétabli et j'ai poursuivi ma carrière encore et j'ai obtenu de très bons résultats.
Blanc, 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 blanc. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Quand j'ai besoin de vacances,
bleu, 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 bleu.
Je m'embarque bleu, dans tes yeux.
Bleu, 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 bleu,
bleu,
bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu,
bleu, comme un ciel immense.
Bleu, 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 bleu.
Et nous partons tous les deux.
Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Quand le vent claque la toile,
blanc, 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 blanc,
de ton joli jupon blanc,
blanc, blanc, blanc,
blanc,
blanc, blanc, blanc, blanc,
blanc, comme une voile,
blanc, blanc, blanc,
je navigue tête éperdument.
Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Tes cheveux d'un blond de rêve.
Blanc, 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 blanc.
Tes fermes en flot léger.
Blanc, 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 blanc,
blanc,
blanc, blanc. Blanc,
blanc, blanc, blanc, sur une grève,
blanc, blanc, blanc,
où je voudrais naufrager.
Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu,
blanc, blanc, bleu, blanc, blanc,
bleu,
blanc,
bleu,
bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc.
Proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Dernière émission de la saison ce soir, Wagon Livre revisite la carrière et les souvenirs de notre invité Raymond Poulidor. En 1971, Poupou est sur le Paris-Roubaix et l'éternel second reçoit la visite de René Fallet et d'un chanteur moustachu, Georges Brassens.
Bien sûr, au départ. D'ailleurs, c'était des amoureux du vélo. Il y avait Fallet, il y avait Georges Brassens, il y avait Audiard.
Et Antoine Blondel.
Et Antoine Blondel, l'inévitable Antoine Blondel, qui a fait des chroniques merveilleuses sur l'équipe pendant de nombreuses années.
Alors on continue de dérouler la carrière. Donc en 73, vous êtes troisième au Tour de France. Et alors en 73, bon là, Eddy Merckx ne participe pas au Tour de France. Mais là encore, dans la descente du col de Portée d'Aspet, alors là, nouvel accident, vous chutez et vous tombez dans un ravin.
Ah là, j'ai vu la mort. Là, j'ai eu la mort de près. En 73, je me suis retrouvé dans la même chambre que Louis Socagna deux ans avant, 71, qui avait fait une terrible chute dans la descente du col de Menté, où il avait normalement perdu le tour, puisqu'il dominait ce Tour de France, comme il dominait le Tour de France 73. Alors, à un virage près, j'ai loupé un virage où l'Italien Casartelli s'est tué. Quelques années après, dans le Tour de France, je me souviens, descendait le Portée d'Aspet, il y avait Ocagna en tête, Zottemek en deuxième position et moi. Dans un virage, Ocagna, qui descendait pas très bien, a perdu un peu le contrôle dans un virage, il y avait du gravillon, derrière il y avait Zottemek, et moi en troisième position, je me suis un peu paniqué, j'ai freiné, puis j'ai été tout droit dans le ravin. C'est le vélo qui m'a sauvé.
Il y a peut-être aussi un peu des branches d'arbres qui ont amorti la chute.
Ah non, il n'y avait pas de branches d'arbres, mais c'est le vélo qui m'a sauvé, puisque lorsque j'ai loupé le virage, je suis resté sur le vélo et j'ai tombé sur les rochers avec le vélo. Et évidemment, le vélo a été écrasé, inutilisable, mais il m'a amorti la chute. Et puis après, j'ai basculé, puis j'ai eu le crâne fendu et tout. Je ne sais pas combien de points de suture. Et là, j'ai passé ma main. Je sentais que ça coulait chaud, j'ai passé ma main et j'ai vu du sang. Et là, j'ai vu la mort de près. Et qu'est-ce que j'ai vu? Quelqu'un qui se pointait en haut du ravin, qui me tendait les bras, c'était Jacques Godet. Ah, j'ai dit, merci monsieur Godet, vous me sauvez la vie. Et puis, lorsque mon premier réflexe, il y avait Capu qui était là, mon directeur sportif, qui s'est arrêté. Mon premier réflexe, ça a été mon vélo de rechange. Alors que j'étais dans un état pitoyable, presque mourant et tout. Puis après, je souffrais terrible. Et lorsqu'on m'a transporté dans l'hélicoptère, je souffrais terrible. Et puis j'ai entendu que le docteur a dit, vous lui faites une piqûre de morphine pour atténuer un peu la douleur. Et le soir, j'ai eu la visite d'Anctil qui est venu me voir dans la chambre. La même chambre que deux ans avant, au Cagnave.
Parlez-nous de votre amitié avec Jacques Anquetil. Alors, Jacques Anquetil, il est mort en 87. Ça fera d'ailleurs 25 ans cette année. Il est mort des suites d'un cancer de l'estomac.
Vous vous rendez compte, il est mort en 18.
Encore un 18.
Il est mort en 18 novembre. Et Jacques Anquetil, il y a eu cette rivalité. Avec Jacques Anquetil...
C'était tendu avant que vous ne soyez amis. C'était, bien sûr, il n'y avait pas de haine. Vous étiez dans esprit de compétition. Il y avait de la haine.
Ah, bon. C'était plus que tendu. D'ailleurs, on s'évitait dans les hôtels. Quand on était au même hôtel...
À ce point,
on n'empruntait jamais la même porte. Il y en a un qui passait par la porte de secours, l'autre par la porte principale. Et Anquetil était très, très, très timide. Il était très timide. Et puis, ce qui le rendait agressif, c'était son entourage aussi, beaucoup. Il ne comprenait pas cette popularité que j'avais, il ne comprenait pas. C'était incompréhensible, d'ailleurs. Même moi, je n'ai jamais compris cette popularité. Les gens, ce qui m'a porté comme soutien moral et tout, c'était extraordinaire. Et Anquetil et l'entourage ne supportaient pas ça. Alors, Anquetil, pendant ces ans que nous avons... C'est plusieurs années que nous avions divisé la France en deux. Anquetil a arrêté sa carrière en 69. Et moi, lorsqu'il a arrêté sa carrière, il faisait le Tour de France avec Europe numéro 1, et Chapat et la télévision, TF1. Anquetil est devenu un de mes plus grands supporters. Un jour, j'ai vu la visite d'Anquetil. Il est venu me voir dans la chambre. Vous savez, il adorait les enfants, Jacques Anquetil. Et il avait une fille qui s'appelait Sophie, qui faisait le Tour de France, qui était avec les gamins. Et elle était sur le Tour de France et tous les gamins avaient une casquette Poulidor Poupou. Et quand je passais, les parents ou eux-mêmes, vas-y Poupou, vas-y Poupou. Et Sophie encourageait, vas-y Poupou. Il dit, tu te rends compte, elle dit Poupou avant papa. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et tu continues à m'emmerder, pardon. Elle veut une casquette de toi. Faut que tu me donnes une casquette. Voilà comme notre amitié est partie.
J'ai une question à vous poser, une de plus. Dans, je crois, Poulidor Intime, vous parlez d'Antoine Blondin. Alors, on connaît sa propension à boire, hein, ce dipsomane incroyable. Mais quelle est la fille du président de la République en exercice qui a vidé des bouteilles durant 3 jours avec Antoine Blondin? Ah, ça c'était la fille de quel président?
Ça s'est passé au jadis.
Oui.
Où Antoine Blondin résidait en Haute-Vienne. Et au jadis, où il avait écrit son livre, fameux livre et tout. Et un jour, on voulait faire un reportage.
C'est un Saint-Jean-Hiver.
Un Saint-Jean-Hiver.
Entre autres.
Voilà, un Saint-Jean-Hiver en août. Et un jour, il a la visite de journalistes. Et ces journalistes étaient accompagnés de la fille de Giscard d'Estaing, président de la République. Alors elle dit, on voudrait faire une interview. Et la fille, je crois qu'elle est restée 2-3 jours, car elle ne pouvait plus repartir. Il fallait qu'elle se repose un peu, quoi. C'est à Linares, pour préciser.
Il faut imaginer Antoine Blondin avec la bouteille de rosé, tranquillement installée, à regarder passer le peloton. C'était aussi... C'est ça, c'est une certaine image de la France.
Oh, ben Antoine Blondin, c'était terrible. Vous savez, on parle... Je suis à vous 2 minutes, puis je finis cette... On parle d'Antoine Blondin. Vous savez, cette fameuse année 64.
Vous savez, le duel terrible.
Voilà, le duel terrible
entre
avec
vous et Anquille.
Vous savez que les femmes, c'était interdit. Aucune femme n'était sur le Tour de France. Il y avait une seule femme qui était autorisée, c'était Madame Anquille, Jeannine. Autrement, aucune femme n'était autorisée. Il n'y avait pas de journaliste, pas de femme, rien. Pas de journaliste. Et cette dernière étape, dans la voiture, la fameuse voiture de l'équipe, une voiture célèbre, il y avait Pierre Chani, Antoine Blondin et Michel Clarke. Et ils ont déguisé la chanteuse...
Annie Cordy.
Non, pas Annie Cordy, Dalida. Ils lui ont donné un chapeau, des moustaches, et ils lui ont fait suivre cette fameuse étape contre la montre, 64. C'est une chose extraordinaire. Mais Antoine Blondin, je peux vous raconter des choses pendant des heures et des heures.
Le malheur des uns.
À l'instant, sur votre radio locale, Le Malheur des Uns fait le Bonheur des Autres, interprété par Frédéric Chateau. La suite de Wagon Livre, votre émission littéraire ce soir avec Raymond Poulidor. Justement, quel regard porte aujourd'hui Raymond Poulidor sur l'actuel Tour de France, dont les étapes sont beaucoup plus...
Ah oui, le Tour de France fait pratiquement 1000 km de moins que les Tours de France que j'ai disputés. Mais ça, la distance a très peu d'importance. Ce qui a fait ça, c'est quoi? C'est les médias, c'est la télévision.
Oui.
Vous savez, maintenant, on impose aux coureurs pratiquement d'être à l'heure pour la télévision. Ce sont des étapes de plat de 200 km. Vous savez, ils font 200 km pratiquement en moins de 4 heures, quelquefois. Moi, quand je vois les horaires qui sont calculés, des étapes de plat, quelquefois, qui sont semi-montagneuses, quand je vois la moyenne qui est calculée, c'est extraordinaire. On dit ils vont arriver à telle heure, la télévision qui fait quelquefois les retransmissions non-stop pendant toute la durée de l'étape, surtout les étapes de montagne qui font 5-6 heures de course, c'est énorme. Alors on impose plus de temps mort aux coureurs. Qu'est-ce qui se passait avant quand on faisait des étapes de près de 300 km? Quelquefois on faisait 150 km à 25 de moyenne. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun intérêt au point de vue pour le téléspectateur. Maintenant, ce sont des étapes beaucoup plus courtes, mais il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort, ça se court vite. Ce qu'on regrette un peu, c'est le système maintenant, ce qu'on appelle les oreillettes.
Oui.
C'est-à-dire, c'est programmé, une échappée au départ, et on sait que les coureurs vont être rejoints à 4-5 km de l'arrivée. Alors ça, c'est difficile à passer. Heureusement qu'il y a la montagne où là, il y a tous les imprévus qui rentrent en jeu. Et c'est là où le Tour de France se joue.
Mais vous êtes toujours aux côtés d'un sponsor sur le Tour?
Ah oui, moi, cette année, je vais faire mon 48e Tour de France. J'ai fait plusieurs Tours de France avec la radio, avec la télévision. Et maintenant, je suis avec le sponsor numéro 1 du Tour de France, LCL, le Crédit Lyonnais. Ouais.
Dans Poulidor, par Raymond Poulidor, vous dites « Le Tour, c'est l'école de la vie ».
Ah, c'est l'école de la vie, oui. Le Tour de France, c'est tout. D'ailleurs, le coureur, même s'il a gagné de nombreuses courses, s'il abandonne au Tour de France, il n'est pas reconnu comme coureur. On ne parle plus de lui. Le Tour de France efface tout. En Belgique, évidemment, il y a le Tour de Flandre, Paris-Roubaix, qui sont des monuments du cyclisme. Mais le Tour de France, c'est la plus grande épreuve du monde. D'ailleurs, c'est notre patrimoine. On nous envie le Tour de France. Moi, je vous dis, je ne m'en lasse pas du Tour de France. Je prends un exemple, l'étape il y a 2 ans qui partait de Rotterdam. On faisait Rotterdam-Bruxelles. On ne sait pas à un million près le public qu'il y avait. On vous dit, il y avait 2 millions 5, il y avait 3 millions, il y avait 4 millions. On ne sait pas. Moi, pendant 230 km, on ne pouvait pas s'arrêter sur le bord de la route. C'était 2-3 files de public, 2-3 rangs de spectateurs qui étaient sur le bord de la route. C'est impossible à chiffrer. Bon, la police va vous dire il y a 1 million, il y avait 2 millions. La CGT va vous dire il y en avait 10 millions.
Alors on parle un peu d'un sujet pas très glorieux tout de même pour le monde du sport en général, mais plus particulièrement du cyclisme. Il y a eu l'affaire Festina, je crois que c'était en 98. Quel regard portez-vous sur ces problèmes de dopage récurrents où il y a de la suspicion régulièrement et cela quand même ôte beaucoup à la beauté de ce sport?
Oui, bien sûr. Là, je ne sais pas si je suis qualifié pour vous parler de ça, mais c'est tellement, tellement vague le problème du dopage. Puisque maintenant, lorsque vous regardez la liste des produits interdits, c'est quelque chose d'invraisemblable. Moi, je prends les paris. Vous faites... Parmi le public, vous prenez 200 personnes dans la rue et vous leur faites subir le même contrôle qu'un coureur cycliste ou un sportif de haut niveau. Je suis sûr qu'à 60%, ils sont positifs, même peut-être plus. Puisque maintenant, bon, il y a l'affaire Contador qui est en train de se juger. Bon, je pense qu'il va être gracié. On ne peut pas condamner Contador avec ce qu'on lui reproche. D'ailleurs, certains... À l'UCI, on s'est pensé sur ce problème, on a fait un peu marche arrière, et il y en a certains qui ont dit, ah, Il se pourrait très bien que ce produit infime qu'on lui a retrouvé dans ses analyses soit produit par la nourriture et notamment par la viande qui est mise en cause. Bon, maintenant, où est la vérité, personne ne le sait.
Raymond Poulidor, ce fut un plaisir de dérouler en votre compagnie votre carrière. Vous qui êtes le champion cycliste le plus populaire de tout le sport français, merci d'avoir accepté cet entretien pour Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Alors, on retrouvera avec bonheur, j'allais dire, votre épopée dans les livres. Je rappelle, Poulidor, c'est 189 victoires, c'est 800 000 km à vélo. Alors, il y a Poulidor Intime par Raymond Poulidor en 2007 avec la participation de Jean-Paul Brouchon avec un cahier de photographies inédites. Il y a l'album Hommage Le Poulidor. Donc là, on retrouve une mise en image d'Hélène Badeau avec une compilation d'articles de presse, de beaucoup de l'équipe, de l'humanité, mais aussi du populaire du centre. Et puis, il y a dans ce Poulidor, l'album, un hommage de Bernard Clavel, le Goncourt 69, qui écrit, je le cite, « Vous êtes de ceux qui marchent dans la vie d'un pas solide, parce qu'ils savent qu'à chaque instant, s'ils se retournent pour jeter un coup d'œil au chemin parcouru, ils n'auront jamais à rougir. » Et puis, il y a Poulidor par Raymond Poulidor, avec une préface d'Eddie Merckx, et c'est aux éditions Jacob Duvernay. Je remercie la direction de la grande surface Leclerc de Sens et Emmanuel Gac de l'espace culturel Leclerc Saint-Clément pour leur amabilité et d'avoir rendu possible notre rencontre, cher Raymond Poulidor. Merci à eux et merci au Centre Leclerc. Au revoir, Raymond Poulidor.
Au revoir, mais je vous félicite pour votre professionnalisme. Je vois que vous avez très bien étudié le cas Poulidor. Tout ce que j'ai dit, je crois que vous auriez pu répondre à ma place.
Merci.
Bravo à vous.
Merci, Raymond Poulidor.
Nous allons quitter le peloton et nous échapper pour vous communiquer quelques rendez-vous culturels dans les semaines à venir, dans Lyon et en Bourgogne. Tout d'abord, dans la Nièvre, à Bazoges-du-Morvan, les 7 et 8 juillet prochains, samedi poésie, dimanche aussi, une manifestation où l'on peut lire et écouter la poésie contemporaine, avec cette année la participation d'un grand nombre de poètes, j'en mentionne quelques-uns, Valérie Rousseau, Mira Vladir, sans oublier le samedi 7 juillet à 22h, Bernard Noël et Christian Prigent qui liront des textes en lien avec l'œuvre de Georges Bataille, dont on commémore cette année le 50e anniversaire de la disparition. C'est une soirée donc lecture à partir de 22h et c'est au centre Jean-Christophe à Vézelay à l'invitation du collectif Lire Bataille. Donc ne manquez pas, si vous êtes férus de poésie, les 7 et 8 juillet prochains, samedi poésie, dimanche aussi, c'est à Bazoges-du-Morvan. Les 7 et 8 juillet, toujours cette fois-ci, mais en Côte d'Or, c'est à Précy-Soutil, le salon Le Livre à la campagne, avec la présence d'un grand nombre d'éditeurs, notamment la maison d'édition de l'Armançon, installée à Précy-Soutil. Alors, en cette année du centenaire de la naissance d'Henri Vincenot, sa fille, Claudine Vincenot, dédicacera Vincenot, l'album paru aux éditions de l'Armançon, un album qui regroupe des photos, des sculptures, des manuscrits de Vincenot. Et ce livre, cet album, comprend 8 grandes parties, l'homme et ses racines, la vie professionnelle, la fameuse Peurie, qui est ce hameau situé au-dessus de la Bussière où repose Henri Vincenot, et puis le Maroc, le théâtre, le peintre, l'écrivain, le sculpteur, un bel album qui s'achève donc sur une bio-bibliographie résumée avec une très belle iconographie. C'est un livre broché, donc disponible aux éditions de l'Armançon, un livre hommage au père de la Bourgogne, né donc en 1992, Henri Vincenot, qui nous a quittés en 1985. D'autres conseils de lecture pour vous accompagner cet été au bord de la plage ou de la piscine, on mentionnera Itinéraire d'un potache sous l'occupation de Paul Sans-la-Ville, c'est aux éditions de l'Escargot Savant. Alors Paul Sans-la-Ville, effectivement, raconte une partie de son adolescence, de 1937 à 1945, une enfance qui a résonné du bruit de bottes qui claquaient en Europe, et il a assisté évidemment au Blitzkrieg et à la débâcle française qui vont porter le maréchal Pétain au pouvoir. Et ce sont les souvenirs d'Autun à Mâcon, mais aussi à Lons, les trimestres et les années de scolarité, les vacances bressanes chez les parents. Tous ces souvenirs figurent donc dans Itinéraire d'un potache sous l'occupation. C'est aux éditions de l'Armançon. Toujours aux éditions de l'Armançon, un livre peut-être cette fois-ci un peu plus géographique, puisqu'il s'agit de Chemins oubliés en pays bourguignon, d'Alain de Certaine, avec une préface de Didier Cornaille. Alain de Certaine nous fait découvrir donc ce guide extraordinaire qui regorge d'informations inédites sur notre patrimoine. Alors Alain de Certaine a effectivement essayé d'étudier des cartes et des photos, et il a fait renaître les vieilles voies celtes qui ont rayonné de Bibracte à Alésia, les routes romaines qui ont tissé un empire, les chemins catholiques de l'Europe de Cluny ou de Citeaux, ou les liaisons postales de nos rois de France. C'est un bel ouvrage donc aux éditions de l'Escargot Savant, dont je répète le titre, Chemins oubliés en pays bourguignon, et c'est signé d'Alain de Certaine aux éditions de l'Escargot Savant. Autre conseil de lecture pour l'été, Kader Aziz Aubry, de Vézelay à Béjaïa, par Gérard Calmette, c'est aux éditions de l'Armançon. Effectivement, Gérard Calmette a découvert, au hasard de ses lectures, l'existence et l'œuvre du peintre Aubry, né à Sétif et mort à Voutenay-sur-Cure. Gérard Calmette nous entraîne donc dans l'Algérie de ses 20 ans à travers ce texte paru aux éditions de l'Armançon. Et puis, notre coup de cœur aussi, c'est Ma tournée de Barbara Moreau, les aventures de Gadine, ses déboires, mais aussi l'énergie qu'elle déploie pour donner les représentations de son spectacle sur les places des villages de la Nièvre. C'est le tome 3 des chroniques d'une conteuse de mémoire. C'est Ma tournée de Barbara Moreau. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances, de bonnes lectures. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter en podcast les 20 dernières émissions de Wagon Livre sur le site internet de Radion. Bel été, c'était ce soir la dernière de la saison. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 29 août, toujours à 21h, nous ferons notre rentrée avec un académicien, puisque Jean-Christophe Ruffin nous présentera son dernier roman, Le Grand Cœur, paru chez Gallimard. Excellente fin de soirée à l'écoute du programme musical de votre radio locale. Au revoir et bel été encore. Thank you.